Radio Django, 18-19h.
18h32, je suis en compagnie ce soir de Lamine de la rédaction vaudoise de Voix d'Exil. Bonsoir Lamine.
Bonsoir Fabien.
Lamine, tu as invité ce soir Jean-Pierre Vicario. Bonsoir d'ailleurs.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous travaillez à l'EVAM, vous êtes également photographe et vous avez récemment réalisé un travail intitulé « Portrait de réfugiés » sur l'île grecque Chios, qui se trouve à proximité de la côte turque. Cette île est d'ailleurs connue pour être un lieu de passage d'immigrants qui se rendent en Europe. Vous vous y êtes rendu le printemps dernier initialement pour vous engager auprès des bénévoles qui secourent les migrants arrivés sur les côtes généralement de cette île. Portrait de réfugiés va donner lieu à une exposition qui sera d'ailleurs vernie demain, mercredi 21 juin, dans les galeries genevoises V60 à la rue de la Valande, la rue des Volondes 60 à Genève.
Merci à Jean-Pierre Vicario d'avoir accepté mon invitation. J'ai eu l'envie de partager avec nos éditeurs votre engagement sur l'île de Chios suite à une conférence que vous avez donnée à l'EVAM. Je me suis dit que c'est important de mettre en valeur votre travail, car vous êtes un témoin oculaire des drames quotidiens que vivent les exilés qui cherchent à franchir la Méditerranée pour rejoindre l'Europe.
Merci à vous pour l'invitation.
Pouvez-vous nous décrire en quelques mots le camp où vous viviez ?
Alors, plutôt le camp dans lequel je travaillais, sur l'île de Chios, il y a deux camps en fait, de réfugiés. Le premier, c'est le camp de Vial, qui est géré par une structure militaire où les bénévoles n'ont pas accès du tout. Et puis, moi, j'ai pu travailler sur le camp de Souda, qui se trouve au centre-ville, en fait. Centre-ville, mais qui borde la plage, près du port, dans lequel il y avait à peu près un millier de personnes qui vivaient là, dans des tentes. Vraiment l'image qu'on se fait du camp de réfugiés, mais on est en ville, et puis on est en Europe, quoi.
Quelles sont les activités des bénévoles que vous fréquentiez ?
Alors, les activités du CERST, donc le groupe avec lequel je suis, j'étais sur place, c'est le Chios Eastern Shore Response Team, a été créé pour vraiment apporter une réponse rapide. Donc, ils ont deux types d'activités. La première, dont l'urgence, c'est vraiment l'accueil des bateaux. Quand les réfugiés arrivent sur des bateaux ridicules, en caoutchouc, enfin des trucs pas possibles, où ils sont vraiment beaucoup trop dessus. Et puis, ils sont restés coincés pendant des heures sur l'eau, ils sont mouillés, ils ont faim, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils sont cachés peut-être avant de prendre le bateau. Donc, la première des urgences, c'est d'accueillir ces gens, de leur souhaiter la bienvenue, déjà. Et puis, leur offrir quelque chose à boire, de l'eau, un petit peu de nourriture, et puis des habits secs, surtout, pour qu'ils puissent se changer, puis avoir des habits secs. Et avant que ces gens-là soient conduits par les autorités, plus ou moins pour l'enregistrement, dans le camp, justement, dans le camp de Vial, où là, on a plus accès. Donc, il y a un petit moment court pour vraiment apporter une aide sur place, vraiment très, 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 très rapide. Et puis, les autres activités sont plutôt sur le long terme. Le groupe a mis en place un centre de langue où des bénévoles dispensent des cours d'anglais. Il y a une maison des enfants où les mômes, les petits qui vivent dans des tentes, dans un camp un petit peu spartiate comme ça, peuvent aller prendre une douche, se baigner, jouer dans un espace dans un espace complètement sécurisé.
Parce que dans cette zone d'arrivée, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des familles, il y a tout.
Tout est mélangé. Ouais. Ouais. Et des mineurs non accompagnés aussi, qui sont pas mal laissés à eux-mêmes. Et puis d'autres activités, distribution de vêtements, distribution de nourriture, le thé de 4 heures qui est super important, qui est vraiment un moment de partage, de lien, où les bénévoles peuvent aussi observer les gens, voir un petit peu s'il y a des cas vulnérables, des gens qu'il faudrait pousser un peu pour qu'on les prenne en charge correctement. Donc plein d'activités, quoi.
Qu'est-ce qui vous a motivé de faire le bénévolat à l'île de Chios ?
Ben, ça fait 18 ans que je travaille à l'EVAM. Aujourd'hui, j'enseigne aux nouveaux collaborateurs qui rentrent dans l'entreprise. Je leur donne plein d'informations sur comment ça fonctionne chez nous, etc. Et puis, aujourd'hui, je me sentais un petit peu loin du terrain. Ceux pour qui j'ai commencé à travailler, à l'époque, c'était Farias. Et puis, j'avais juste envie de prendre un petit moment pour moi, pour aller vraiment mettre les mains un petit peu là où c'était chaud, quoi, en première ligne. Et puis j'avais aussi envie de parler, documenter un peu le travail des volontaires, ces gens qui... J'ai lu l'autre jour un petit mot super des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, quoi, qui prennent du temps sur eux pour aller donner un coup de main, pour aller faire quelque chose que les autorités font pas, que les grosses ONG assurent pas. Puis je voulais raconter un petit peu ce qui se faisait. Donc ça, c'était un petit peu l'idée première. Et puis, en tant que photographe, d'aller photographier les gens, évidemment. Je me suis rendu compte que je suis rentré avec plus de photos de réfugiés que de photos de bénévoles. Voilà.
Combien de temps y êtes-vous resté et où viviez-vous ?
Alors, je suis resté 2 semaines. J'ai pris les vacances de Pâques, hein, qui étaient faciles, entre guillemets. Et puis, je vivais chez Toula. Alors, Toula, c'est un personnage, on l'appelle... l'ange de la mer Égée ou la déesse de la mer Égée, enfin il y a plein de surnoms. C'est quelqu'un qui a une pension de vacances en fait près de la ville de Chios et qui au début octobre 2015 a vu débarquer devant sa plage le premier bateau rempli de réfugiés et puis elle a décidé de s'en occuper, de faire quelque chose pour ces gens qui sont arrivés qui étaient complètement trempés. Et puis depuis début octobre 2015 elle n'a pas arrêté. Jour et nuit, 7 jours sur 7, elle s'occupe, elle coordonne, elle a créé le CERT. Et puis évidemment, son lieu de résidence de vacances est devenu à force un peu le shtam, l'endroit où sont logés la plupart des bénévoles qui viennent travailler sur l'île. Alors pas que là, parce qu'il y a beaucoup de monde hein, qui vient. À Pâques, lorsque j'étais sur place, on était une trentaine de bénévoles. Aujourd'hui, 150. Donc il y a des gens qui vivent là, des gens qui vivent aussi en ville. Mais moi j'étais logé là avec d'autres bénévoles, ce qui rendait plus facile l'accès au groupe, le travail de groupe.
Quelle était votre mission ?
Alors j'avais pas de mission particulière. Chacun fait un peu ce qu'il veut faire, là où il se sent à l'aise. Dans ce qu'il sait faire. Alors moi, j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai fait du tri d'habits, j'ai fait de la menuiserie, j'ai construit des étagères avec des vieilles palettes qu'on a démontées, récupéré les clous pour fabriquer quelque chose. J'ai fait de la distribution de vêtements, j'ai fait le thé, je suis allé au bateau plusieurs fois, de jour, de nuit. J'ai passé des nuits blanches à veiller sur les gens qui venaient d'arriver, parce qu'évidemment, quand vous avez 50, 60, 70 personnes qui arrivent sur un ridicule bateau et qui doivent attendre le lendemain pour pouvoir être pris en charge par les autorités, eh ben, ils passent la nuit dehors. Donc on reste avec eux, on essaie de s'organiser pour amener un petit peu quelque chose de chaud à manger. Donc ça, c'est aussi prenant. Et puis j'ai fait des photos, évidemment, j'ai fait des photos tous les jours, quoi.
Quel a été votre dispositif photographique ?
Je travaille depuis plusieurs années avec du matériel Fuji, qui est très petit. L'idée pour moi, c'est d'oublier le gros boîtier un peu imposant, comme ça, pour vraiment travailler avec du matériel qui soit, j'ai envie de dire, humble, qui permet de faire oublier un petit peu le matériel, puis vraiment de se concentrer sur l'autre. Sans arriver qu'un gros réflexe, chose comme ça. Et puis, l'idée pour moi, c'était non seulement de partir avec l'appareil photo, mais également avec une petite imprimante Instax qui permet d'imprimer à la prise de vue. Enfin, je fais la photo, et puis avec une petite connexion Wi-Fi entre l'appareil photo et l'imprimante, ça permettait de sortir un petit tirage, un petit Polaroid qui fait 4 par 6 cm, que la personne peut mettre dans son porte-monnaie, dans son téléphone. Je voulais rien de très grand, parce que ces gens n'ont rien, ils n'ont pas de place pour mettre des choses grandes, ils n'ont pas de mur pour afficher des photos. Par contre, ils ont tous un porte-monnaie, un téléphone, pour regarder ce souvenir, comme ça. Et puis, c'est un petit peu l'échange, quoi. Tu me donnes 2 minutes, ben, je te donne une image, et puis donner un petit peu l'occasion à ces gens d'être vus différemment que comme un réfugié dans un camp, quoi.
Avez-vous été en contact direct avec les migrants là-bas ?
Oui, complètement, tout le temps. Je suis même resté en contact avec certains d'entre eux via les réseaux sociaux, via Facebook. Le contact est super important. Il ne se fait pas tout de suite. On a besoin d'un petit peu de temps pour commencer à s'observer, oser discuter, trouver des sujets intéressants sans chaque fois être le nouveau bénévole qui vient poser les mêmes questions que le bénévole la semaine passée a posé, etc. Essayer d'aller un petit peu nouer des liens. Et puis on arrive à échanger, à avoir vraiment des contacts qui sont vraiment super, super sympas. Moi, j'étais surpris du positivisme de ces gens, de la banane qu'ils avaient tout le temps, être toujours le sourire. Pas tous, il y a des moments difficiles hein, pour tout le monde aussi. Mais ouais, beaucoup de gens avec beaucoup de positifs, quoi. Vraiment très intéressant.
Quels sont les échanges les plus forts qui vous ont le plus marqué? Avez-vous des anecdotes à nous raconter?
Oh ben, des anecdotes, j'en ai plein, on pourrait y passer la nuit.
C'est vrai que passer deux semaines là-bas, on doit en avoir des anecdotes.
Hein. Ouais, même si deux semaines, c'est vraiment, vraiment court. Hein. Mm-hmm. Il ne faudrait pas moins. Non, des anecdotes. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment ce côté positif des gens. Des nuits blanches sur la plage, à faire plein d'images, à discuter avec des gens qui ont des idées en tête, qui ont des rêves d'avenir, mm-hmm. qui nous parlent de ce qu'ils ont quitté un peu, mais surtout de ce qu'ils ont envie de construire. Ouais, des échanges très très riches, quoi.
Pourquoi toutes ces organisations de bénévoles actives sur l'île de Chios va partir le 31 juillet alors qu'il y a toujours tant de personnes à secourir?
Alors, j'en sais rien, en fait.
Ça, c'est une bonne réponse.
Ouais,
on aimerait bien savoir un peu plus.
Je ne suis pas un grand spécialiste de la politique, de loin pas. Mais ce que je comprends, c'est que les grosses ONG, Nations Unies, etc., financent l'aide, apportent de l'aide pendant une durée déterminée. Et puis après, elles se retirent, puis c'est aux États de prendre leurs responsabilités. Et puis visiblement, là, on arrive à un tournant où la Grèce doit prendre ses responsabilités.
Ça va être possible?
Non, très clairement, il faut être clair. Malgré la présence des ONG, et puis je les ai listées pour ne pas les oublier, j'en ai une quinzaine ici sous les yeux, d'ONG que j'ai côtoyées, il y en a d'autres que je n'ai pas vues, que je n'ai pas rencontrées. Avec tout ce personnel sur place, les volontaires, les bénévoles, les ONG, etc., l'État grec n'est pas en mesure de faire face, mm-hmm. très clairement. Aujourd'hui, les organisations vont se retirer, les organisations médicales, WAHA, le NRC, le Norwegian Refugee Council, qui s'occupe de tout ce qui est distribution de nourriture, Médecins du Monde, etc., d'autres, mm-hmm. Save the Children, vont se retirer, sont en train de commencer à se replier.
À votre avis, qu'est-ce qui va se passer donc à partir du 1er août?
Je ne sais pas. Ça va être difficile. C'est difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait beau. La mer est navigable. Il faut savoir qu'il faut imaginer que la distance entre les côtes turques et Chios, c'est la distance entre Lausanne et Évian. C'est super court. Les gens continuent à arriver. Des bateaux qui arrivent pas tous les jours, mais presque. Mm-hmm. Aujourd'hui, les camps sont pleins. Il y a 4000 personnes sur l'île. Ceux qui ne sont pas hébergés dorment dans la rue. Ou dans les centres que CERST met à disposition la nuit, on les transforme en centres d'hébergement. Et puis, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça ne va pas être joli, quoi.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler sans doute à la rentrée pour suivre cette actualité brûlante hein, qui se passe en Grèce notamment. Merci beaucoup Jean-Pierre Vicario.
Merci.
Merci beaucoup d'être venu partager avec nous votre expérience sur les migrants et sur les bénévoles que vous avez rencontrés à l'île de Chios au large de la Grèce. Et merci beaucoup à Lamine de la rédaction de Voix d'Exil pour cet entretien. Pour découvrir votre travail photographique, Jean-Pierre Vicario, on le rappelle, hein, il est intitulé Portrait de réfugiés. Rendez-vous donc demain, mercredi 21 juin, à la galerie genevoise V60. C'est à la rue des Volandes 60 à Genève pour le vernissage des expositions.
Si j'ose encore, il y a un vernissage demain soir, il y a une conférence qui sera donnée mercredi prochain, mm-hmm. et visiblement jeudi prochain aussi, parce qu'il commence à y avoir du monde. Et puis on a décidé de doubler la conférence où je vais vraiment raconter en images ce qui s'est passé.
Et c'est une exposition qui sera visible pendant plusieurs semaines?
Alors là, elle va rester visible en tout cas deux semaines. Mm-hmm. On prolongera pas, je ne sais pas.
Voilà. On verra tout ça. Merci beaucoup. Un sujet à retrouver sur notre site www.django.fm et sur le site de Voix d'Exil, voixd'exil.ch.